Et c'est désormais tout de suite, juste après le flash de 13h, que Franck Ferrand nous donne rendez-vous pour la nouvelle formule de son émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Une heure entière pour nous, dites donc. Vous vous rendez compte, c'est formidable.
Quel bonheur.
C'est une heure d'évasion pure. Alors, pendant la demi-heure qui vient, nous allons humer l'atmosphère troublante, vénéneuse du Paris de la Grande Guerre. Après quoi, je vous emmènerai faire un tour dans ces rues frappées de couvre-feu en compagnie d'un guide nommé Marcel Proust. Il y a si longtemps que je voulais vous le présenter, celui-là.
Et bientôt finit par arriver. Voilà. Proust n'est d'ailleurs qu'un de vos quatre invités aujourd'hui.
Oui, on peut dire ça. Nous avons réuni pour vous des experts de la Grande Guerre pour qui le quotidien des embusqués de l'arrière, l'arrière par opposition au front, les cinémas de permissionnaires, la grosse Bertha n'ont pas de secret. Ils ont promis de nous montrer Paris sous un tout autre visage.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Une bonne partie de l'histoire de France s'est écrite à Paris. De toutes les grandes villes d'Occident, la capitale française est une de celles dont les rues, les places, les murs sont le plus saturés de scènes historiques. Vous savez, il suffit de changer de trottoir pour changer de siècle à Paris. Du miracle de Sainte-Geneviève au couronnement de Napoléon, de la Saint-Barthélemy à l'incendie de la Commune, Paris a tout vu, tout vécu. L'une des périodes les mieux connues de son histoire, c'est évidemment celle de l'occupation allemande lors de la dernière guerre. Il y a énormément de romans, de films, de feuilletons, d'expos, de photos innombrables de ce Paris de l'occupation. Tout ça nous a familiarisés avec ces heures sombres. On connaît par cœur ces clichés de la place de l'Opéra pleine de panneaux en allemand ou de la rue de Rivoli pavoisant aux couleurs nazies. En revanche, personne ou presque... jamais ou presque ne parle de la vie à Paris pendant la Première Guerre mondiale. À l'été 1914, la capitale voit soudain affluer dans ses gares, sur ses boulevards, les foules de conscrits qui débarquent de toutes les provinces. Les soldats mobilisés partent évidemment pour le nord et l'est, officiellement la fleur au fusil. En vérité, sans doute dans un climat poignant, un climat d'angoisse larvée que l'on surmonte en chantant fort et en riant jaune. Or, on l'oublie parfois, mais dans les commencements de cette grande guerre, Paris est vite menacé. Dès les premiers jours de septembre 14, les troupes ennemies sont à ses portes. Le 3, un détachement allemand a bivouaqué au Plessis-Belleville. Ça commence là vraiment à sentir le roussi. Il va falloir le sursaut incroyable, inespéré des 6 et 7 septembre sous l'égide du gouverneur militaire, le général Gallieni, pour que Paris soit sauvé. C'est le très célèbre épisode des taxis de la Marne que j'ai eu l'occasion, vous imaginez, depuis 10 ans de vous raconter un certain nombre de fois à ce micro. Après quoi, le front se stabilise un peu plus loin, la guerre s'enlise, les habitudes sont les plus fortes et à Paris, la vie quotidienne reprend le dessus. Le gouvernement est toujours dans les murs. La bonne société, après avoir fui dans les résidences secondaires, reprend ses quartiers dans le courant de l'hiver. Et on va voir les restaurants, les théâtres, les cafés s'adapter à l'afflux permanent de permissionnaires qu'il va falloir distraire des horreurs du front. Bref, Paris devient l'épicentre de ce qu'on va appeler l'arrière, c'est-à-dire à la fois l'horizon et le dégoût du poilu. Plus tard, ce seront les alertes, les couvre-feux, les bombardements, mais plus tard seulement. Alors, comment vivait-on dans ce Paris de 14-18? En quoi ce conflit énorme a-t-il modifié les habitudes et peut-être transformé les mœurs? C'est ce que nous allons découvrir. Alors tout à l'heure, je vous le disais, c'est en compagnie de Marcel Proust que nous nous promènerons dans ce Paris de 14-18, puisqu'il y a consacré quelques-unes des pages les plus fortes de sa recherche du temps perdu. En attendant, et pour planter le décor, pour donner les repères de cette période et de cet endroit, c'est très spécifique ce Paris de la Grande Guerre, j'ai convié pour vous deux grands spécialistes. Vous connaissez bien sûr Jean-Pierre Guay, Guénaud, écrivain et éditeur. Jean-Pierre Guénaud, l'auteur des Paroles de Poilu, bien entendu, et qui est un habitué de ce micro. Bonjour Jean-Pierre, merci de commencer l'année avec nous. Et puis Emmanuelle Cronier, qui est historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui me disait juste avant que ne commence cette émission que le Paris de 14-18 est d'abord, et c'est normal, on est en temps de guerre, c'est d'abord un Paris sous surveillance.
En effet, Paris, ça reste la capitale la plus proche du front et la peur de l'avancée ennemie, vous le disiez tout à l'heure, fait que Paris est sans cesse surveillé, d'abord pour des raisons militaires, évidemment, aussi pour des raisons politiques, parce que ça reste le cœur de la décision politique pendant la guerre. D'une manière générale, il y a un renforcement de la surveillance policière pendant la guerre à Paris, à la fois par la peur de l'espionnage ennemi, la peur aussi d'une contamination du front par l'arrière.
On a plutôt peur que l'arrière ne soit contaminé par les permissionnaires qui arrivent et qui n'ont pas toujours de bonnes nouvelles à donner. Ce qu'il faut dire, Jean-Pierre Guénaud, c'est qu'il y a un très gros décalage entre ce que vivent les soldats sur le front et très vite dans les tranchées et ce qu'on raconte aux gens dans les journaux, bien entendu.
Oui, il y a un décalage qui est entretenu par la presse. Quand vous pensez qu'un vrai journaliste, ou présumé tel, écrit dans l'Intransigeant le 17 août 14, pendant les pire tuerie de la Grande Guerre. Il peut y avoir, ces semaines-là, plus de 20 000 morts par jour. L'inefficacité des projectiles ennemis est l'objet de tous les commentaires. Les shrapnels éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Quant aux balles allemandes, elles ne sont pas dangereuses.
Ben voilà.
Elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure.
Ça, c'est magnifique. Tout va bien, finalement.
Avec Franck Ferrand.
Et nous sommes précisément au cœur du Paris de la Grande Guerre sur Europe 1. Et avant de retrouver votre récit, Franck, nous prenons les repères de cette période, toujours en compagnie de vos invités aujourd'hui. Jean-Pierre Guénaud, qui est écrivain et éditeur, auteur notamment de Paroles de Poilu chez Librio, de Paroles de Verdun chez Perrin, et puis Emmanuelle Cronier, qui est historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale.
Alors, une des raisons, Jean-Pierre Guénaud, pour lesquelles on parle finalement très peu de ce Paris de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est un Paris qui n'a pas tellement souffert, disons-le. En termes, tout de suite, pour donner le bilan, le nombre de morts dans la population, c'est sur l'extrême fin de la guerre au moment des bombardements. Ce sont souvent des morts qui sont des badauds, on y reviendra tout à l'heure, et ils sont très peu nombreux. Ça fait combien de personnes?
Oui, l'essentiel, ça se chiffre peut-être en quelques centaines, quelques milliers,
parce entre
que l'essentiel
200
des morts,
c'est
dans les zones de combat. Oui. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Il y a quand même eu, pendant cette guerre, sur 10% du territoire, à peu près 300 000 morts, là où il y a eu aux alentours d'1 500 000 morts du côté militaire. Donc c'est pas à négliger tout de même. Mais à Paris, les choses vont quand même beaucoup mieux.
Et en même temps, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, et une fois qu'on l'aura dit, je pense que nos auditeurs retiendront ça, c'est que le front, la ligne des combats, se trouve quand même pas très éloignée. C'est pas comme dans certains conflits où la capitale est très loin des combats. Là, c'est pas le cas. On est quand même quasiment à portée de terrasse, si je puis dire.
Oui, c'est ce qui rend d'ailleurs, pour les permissionnaires, la situation surréaliste. C'est qu'on est très proche, très très proche des combats. On est à portée de canon, vous y reviendrez, de canon à longue portée en tout cas. Et ce qui est surréaliste, c'est que quand ils lisent leurs journaux et quand ils reviennent à l'arrière, il arrive que les permissionnaires aient des envies d'homicide qui ne soient pas spécialement tournées vers les Allemands, vers l'ennemi, mais un petit peu vers ces civils. Parce que ces civils, avant même de les fréquenter à Paris pendant leur permission, ils les fréquentent sur ces zones de combat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut citer ce qui se passe pendant les premières semaines de la guerre. C'est une guerre de mouvement. L'intendance ne suit pas. Il arrive que les gens fassent des marches jusqu'à 70 km par jour pour avancer ou pour reculer. Et là, très souvent, ils n'ont rien à manger. Donc ils sont obligés de cantiner, comme on le fait en prison, d'ouvrir leur porte-monnaie pour acheter du lard, des œufs, pour manger. Et là, ils sont souvent pris en otage par les paysans du cru qui vont leur vendre le lard, les œufs, au prix du caviar. Alors ce qui est terrible, c'est que de temps en temps, quand quelqu'un s'est fait comme ça rançonner et qu'il crève de faim depuis 3 jours et qu'il trouve une poule dans un fourré près d'une meule de foin, il arrive qu'il estourbisse la poule pour la passer à la cocotte. Mais là, quand il est pris, ça se passe très mal. Et un certain nombre de policiers.
Il y a des règlements militaires, hein,
à ce moment-là.
On fusille les voleurs.
Des gens pour vol de poule. Il y a plus de cas qu'on le pense.
Alors, revenons à Paris même. C'est le cadre de notre émission. Nous parlerons tout à l'heure de la vie de ces permissionnaires à Paris, sur lesquels d'ailleurs vous avez fait votre thèse, Emmanuelle Cronier. Ce que j'aimerais que vous nous disiez avant cela, c'est en quoi la guerre peut changer le quotidien des Parisiens. Eux-mêmes. Les gens qui habitent dans la ville du jour au lendemain, ils ont par exemple des problèmes d'approvisionnement, j'imagine.
Alors à Paris, c'est une ville qui a été avec Londres quand même assez protégée jusque 1916. La pénurie, elle est quand même progressive, notamment en comparaison avec Berlin. On peut dire que c'est surtout à partir de 1916 que la pénurie, notamment alimentaire, se fait sentir. Les cartes de rationnement pour le sucre seront imposées seulement à partir de 1917, pour le pain à partir de 1918, ce qui n'empêche pas qu'auparavant, effectivement, l'approvisionnement est difficile, surtout que les horaires de travail sont beaucoup allongés, il est plus difficile aussi de se déplacer en ville, il n'y a plus de métro, il y a quasiment plus de métro, il n'y a plus de bus jusque 1916, il n'y a pas de taxi non plus, ça veut dire que
On voit des personnes assez âgées qui reprennent du service, si je puis dire, dans certains métiers, puisque les jeunes hommes sont partis, et les femmes, bien entendu, se mettent à travailler en nombre.
En effet, oui, c'est un phénomène qui a été beaucoup connu, quoi. Après la guerre, sensible dès cette époque, on les voit notamment conduire les tramways. Elles font aussi elles sont plus nombreuses dans les usines de guerre où elles étaient déjà présentes avant guerre, avec des horaires élargis. Et ensuite, quand elles rentrent le soir, après, il faut faire la queue devant les boutiques. Et bien souvent, au moment où elles arrivent, il n'y a plus rien. Donc, c'est très compliqué de se ravitailler.
Et à mesure que les semaines et les mois passent, et notamment dans les début d'une guerre qui a été particulièrement meurtrière dans ses premiers mois, on voit les veuves se multiplier et pour elles, la vie est très compliquée, Jean-Claude.
Et oui, c'est terrible, puisque si on estime qu'à peu près 40% des 1,4 million, 1 million ou au-delà, poilus français tués pendant la guerre ont été tués pendant les 10 premiers mois de la guerre. Ça veut dire que 40% des veuves sont veuves dès les 10 premiers mois de la guerre. Or, les tribunaux français ne leur accorderont des pensions qu'en 1922 et 1923, lorsque leurs maris auront été déclarés morts au champ d'honneur. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les aides des communes, l'État, lui, n'apportera aucune aide pendant 8 ans
ces femmes. De quoi vivent-elles alors
C'est terrible. On a le cas dans le Parole de Poilu d'une femme qui est femme d'aubergiste, qui a deux fils à charge, qui travaille avec son mari. L'auberge vivote avant la guerre, représentant de commerce, chasseur. Pendant la guerre, ça se passe mal. Et alors, dès qu'on apprend la mort du père, il est évident que les créanciers se ruent sur cette pauvre femme qui, du jour au lendemain, se retrouve à l'usine. Et l'un de ses fils ne fera une carrière de médecin que parce qu'après l'usine, elle entame une carrière de femme de ménage.
Alors, énormément de femmes qui se retrouvent célibataires, un certain nombre d'entre elles qui ont de très gros besoins d'argent, des afflux de soldats qui débarquent comme ça en permanence dans une ville. Bref, on me voit venir avec mes gros sabots. La prostitution doit y aller bon train, j'imagine.
Oui, puis pas uniquement pour des raisons de plaisir, pour des raisons de pauvreté.
Bien sûr, tout simplement.
Alors oui, ça c'est quelque chose de terrible et c'est une période très paradoxale. Au départ, les gens ne manquent pas de nourriture, mais il y a des problèmes d'énergie. Donc il y a des choses qui pourraient restreindre la vie mondaine, un peu la vie parisienne. Mais malgré ça, les théâtres vont se mettre à redémarrer et même à prospérer. Et curieusement, c'est quand arriveront les restrictions alimentaires au bout de 2 ans, 3 ans, qu'au contraire, les spectacles continueront à se débrider. Ce qui est spectaculaire, c'est l'évolution du cinéma. En novembre 1914, il y a 130 000 entrées dans les salles parisiennes. Il y en a, tenez-vous bien, plus de 2 millions en janvier 1916. C'est-à-dire qu'il y a un véritable boom des distractions, de la vie. Et puis alors, vous évoquez ces femmes. Alors, on peut penser aux femmes seules. Alors, on peut penser aux marraines de guerre.
Ah oui, on va
qui
parler
n'ont pas
tout
uniquement
à
le rôle charitable que l'on croit.
On va venir justement à la vie des militaires en permission, des militaires également qui repartent pour le front et bien sûr à ces marraines de guerre. Juste un mot parmi les spectacles auquel on peut assister à partir de mars 1915. Il y a cette célèbre, devenue très célèbre et mythique conférence de Sacha Guitry, ça s'appelle « Ceux de chez nous », et c'est la contribution de Sacha à l'effort de guerre.
L'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent, mais qui l'intéresseraient bien davantage encore s'il les connaissait mieux. C'était en 1914, et vous n'étiez pas nés, mesdames. Chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprises et d'agréments. On convenait déjà que, mise au service de la science, elle pouvait être plus qu'agréable, utile. Mise au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Le cinéma nous avait montré jusqu'alors des comédies, des paysages, des animaux en liberté et des souverains qui descendent rapidement de voiture, ça ne manquait pas d'intérêt et les petites comédies que l'on photographiait en 1913 amusaient le public. On s'en moque aujourd'hui assez cruellement et bien injustement d'ailleurs.
Tous ces mythes vivants, ces légendes extraordinaires que Sacha Guitry va montrer au public en les filmant pour la toute première fois. C'est une démarche historique tout à fait originale. Tous ces gens vivent, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, à Paris et ils ne sont pas avares de leur temps et de leur présence pour soutenir ce qu'on appelle l'effort de guerre. Nous y venons dans un instant et surtout, nous allons nous mettre à la place de ces soldats qui revenaient du front et qui découvraient à l'arrière une capitale plutôt tranquille.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Un extrait sur Europe 1 de la chanson de Craonne, Franck, interprétée par Marc Augerès.
Cette chanson de Craonne, qui est restée un peu l'hymne de cette Première Guerre mondiale, en tout cas des soldats, elle a été retissée sur un plus vieux
canevas. Ah oui, c'est pas du tout ce qu'on croit. En fait, ouais. Les pouvoirs publics voulaient donner à penser que tout ça, sous ce mauvais esprit de 1917 chez certains mutins, n'était que le fruit de la Révolution russe. La chanson de Craonne, c'est un vieux standard qui est né en 1911. C'était une musique de Charles Sablon, le père de Jean Sablon. Bonsoir Mamour, c'est une valse à succès. Alors elle commence à se transformer en 1915 avec toutes les paroles de la chanson de Craonne, à l'exception de deux vers. À chaque fois, on adapte deux vers et on les adapte à la situation.
Peu, oui.
En 1915, c'est la chanson de Lorette, du nom des violents combats qui ont lieu en Artois, autour de Notre-Dame de Lorette. Et là, dans le refrain, on vous dit « C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. » Et on parle du plateau de « C'est à Lorette sur le plateau qu'on doit laisser notre peau. » En 1916, on est à Verdun. On adapte la chanson à Verdun.
C'est
à Verdun sur le plateau. Et on arrive enfin, en 1917, à Craonne, où là, c'est à Craonne. Donc cette chanson, avec tout l'esprit qu'elle colporte, naît dès 1915. Ce qui veut dire qu'elle embrasse l'intégralité de la guerre et non pas seulement l'année 1917.
Est-ce que ces soldats qui arrivaient du front ont permis aux Parisiens, puisque ce sont eux dont nous parlons, on pourrait parler de l'ensemble, de l'arrière, mais concentrons-nous sur Paris aujourd'hui, est-ce qu'ils ont permis aux Parisiens de prendre mieux conscience de l'horreur de ce qu'ils vivaient au quotidien, Emmanuel Cronet ?
Oui, je pense que par rapport à l'image qui domine souvent, qu'il y avait un véritable fossé entre le front et l'arrière, alors c'est vrai, les expériences ne sont pas du tout comparables, il y a beaucoup de choses que les soldats ne racontent pas, même à leur famille.
Et que les civils ne peuvent même pas imaginer.
Voilà, c'est au-delà du disciple, l'expérience du front. Mais mine de rien, il y a des signes qui sont pas... Tout ne passe pas par la parole. Et effectivement, il y a des récits de l'expérience de guerre. C'est vrai qu'ils sont beaucoup sollicités aussi par les civils pour raconter ce qui se passe au front. Alors il y a des choses qu'ils disent, il y a des choses qui racontent pas. Mais finalement, c'est vrai que ça permet à une certaine connaissance de l'expérience du front d'être déjà perçue à l'arrière, notamment au sein des familles. Oui.
Le soldat dans sa tranchée, ou en tout cas au front, rêve de la permission, il rêve de Paris, il se fait tout un scénario de ce qu'il va vivre pendant les quelques jours de liberté qu'on lui accorde. Et souvent, vous nous dites qu'il est déçu.
Oui, parce que finalement, la permission, c'est quelque chose qui est longtemps attendu. On peut estimer qu'en moyenne, peut-être ils sont revenus chez eux 5 fois en moyenne pendant la guerre, tout ça pour une semaine maximum. C'est dur d'attendre pendant 3-4 mois la permission. Et c'est vrai que c'est aussi dans le fantasme, il nourrit après beaucoup de frustration une fois qu'on arrive à l'arrière et puis qu'on voit les jeunes hommes qui sont en âge d'être mobilisés, qui finalement sont à Paris.
Les embusqués, comme
voilà.
On disait.
Les embusqués,
ça vient d'où ce terme ? C'est le terme qu'on emploie à l'époque.
Oui. Oui, c'est le terme un peu péjoratif. Alors, il y en a tout un tas d'autres. Les planqués aussi, ils déclinent ça de différents termes. Et aussi, il y a toute une peur de l'infidélité féminine qui est très, très forte chez les soldats qui reviennent en permission.
Alors, peur de l'infidélité de leurs petites amies ou de leurs femmes, mais espoir de l'infidélité de la femme du copain, quand même.
Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont pris dans leurs propres contradictions. La nature humaine, finalement, elle est quand même compliquée. Voilà. C'est le lien avec la prostitution dont on parlait tout à l'heure.
Dans Paroles de Poilu, vous citez cette lettre extraordinaire, Jean-Pierre Guénot, de ce jeune homme qui a été dégoûté par ce qu'il a vu, et ça lui a même ça lui a ôté le goût de vivre.
L'envie de vivre. C'est Gaston Biron. Ça fait 2 ans qu'il attend sa permission. Il retrouve sa mère à Paris. Et là, il est terriblement déçu. Les gens lisent dans le fond de ses yeux et lui reprochent implicitement de ne pas être encore mort. Il s'aperçoit que les gens se sont installés dans leur confort, dans leur routine. Le poilu dérange. Le poilu qui sort de ses tranchées, qui sursaute ou se plaque au sol quand il y a la détonation d'un pot d'échappement, c'est quelqu'un qui dérange profondément. Et quand il revient, il dit à sa mère que bien sûr, ça n'a rien à voir avec elle, mais que somme toute, tout ça lui a coupé l'envie de vivre, qui n'a plus qu'une envie, c'est de mourir, et si possible, plutôt proprement que salement. Il ne va pas attendre très longtemps, il sera tué 3 semaines plus tard, et ses sœurs qui portent des prénoms comme on en redonne à nos filles aujourd'hui, Berthe, Blanche, Clémence, eh bien vont apprendre sa mort quelques semaines plus tard.
Et ce jeune permissionnaire a été tout simplement stupéfait de l'insouciance qu'il lisait dans le regard des passants, et pire que l'insouciance, une forme même d'hostilité, car finalement, tous ces poilus qui arrivent sur les boulevards où l'on dîne et où l'on soupe, ils gâchent un peu le plaisir et ils font tache dans le paysage, Emmanuel Cronier.
Oui, si on veut. En même temps, il faut quand même garder à l'esprit que ce sont eux aussi les principaux consommateurs des divertissements parisiens. Les gens qui sont dans les cinémas, c'est eux, dans les théâtres aussi. Aux terrasses des cafés, c'est des soldats avant tout. Donc il y a les deux qui jouent, en fait.
En un mot, Paris change pendant cette guerre de 14-18, la physionomie même de la ville ?
Oui, effectivement, oui. C'est une ville qui est complètement modifiée, où il y a de très nombreux signes de la guerre. Les bâtiments sont couverts de sacs de sable, par exemple. On les reconnaît pas du tout. L'éclairage de la ville est énormément diminué pour se protéger des bombardements.
Alors on va y venir à tout ça, si vous voulez bien. Et on va y venir grâce aux descriptions qu'en donne un grand témoin, je crois qu'on peut le dire, Marcel Proust en personne.
Effectivement, comme convenu, voici l'heure de votre récit, Franck, sur Europe 1.
En un instant, les rues deviennent entièrement noires. Parfois seulement, un avion ennemi qui volait assez bas éclairait le point où il voulait jeter une bombe. Je ne retrouvais plus mon chemin. Je pressais le pas pour fuir cet avion. Comme un voyageur poursuivi par le mascaret, je tournais en cercle dans les places noires d'où je ne pouvais plus sortir. Enfin, les flammes d'un incendie m'éclairèrent et je pus retrouver mon chemin, cependant que crépitait sans arrêt les coups de canon. Les coups de canon qu'il faut imaginer au loin et qui vont, pendant toutes ces années, rythmer la vie des Parisiens. Alors ces lignes, vous avez bien compris que je les ai extraites d'un des plus beaux textes qu'on puisse lire. C'est le dernier tome de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je dis un des plus beaux textes, un des plus magiques aussi. Car ce qu'il y a de singulier dans sa splendeur, c'est qu'on ne peut en profiter de ce texte, on ne peut en profiter vraiment pleinement que lorsqu'on a déjà parcouru les milliers de pages des 7 épais volumes qui précèdent ce 8e et dernier tome. Il faut avoir tout lu pour en tirer le suc, en quelque sorte. Ça, c'est assez fort. Le temps retrouvé, c'est le nom de cet ultime tome de la série, contient toutes les clés, tous les mystères, toutes les résolutions du grand chef-d'œuvre de Proust. Or, l'action, si tant est qu'on puisse parler d'action à propos de cette étrange méditation contemplative, c'est que Proust lui-même, lorsqu'on lui parlait de La recherche, disait que c'est une espèce de roman, disait-il. L'action, tout de même, s'en situe pendant et juste après la Première Guerre mondiale, ce qui nous vaut, c'est une des portes d'entrée de l'œuvre, des pages inouïes sur cette capitale, sur Paris, en plein conflit mondial. Ce que je vous propose donc, c'est de prendre Marcel Proust comme guide dans cet univers si particulier du Paris ambigu, du Paris de la Grande Guerre, le Paname de 14-18. Comme toujours, ce sont les impressions esthétiques qui priment dans les notations de Proust. Les impressions, mais aussi les comparaisons. Un exemple. Pour lui, ce qui va le marquer dans la tenue des Parisiennes de 1916 et dans la mode, si vous voulez, c'est qu'elles ont adopté les mêmes réflexes que les Parisiennes de la Révolution. Et nous dit Proust, précisément, celle de l'époque du directoire. Je cite notre auteur. Des jeunes femmes allaient tout le jour coiffées de hauts turbans cylindriques comme aurait pu l'être une contemporaine de Madame Tallien, donc Madame Tallien qui vivait sous le directoire, par civisme ayant des tuniques égyptiennes droites sombres très guères sur des jupes très courtes. C'est, disait-elle, parce qu'elle n'oubliait pas qu'elle devait réjouir les yeux de ses combattants, qu'elle se parait encore non seulement de toilettes floues, mais encore de bijoux évoquant les armées par leur thème décoratif. C'était des bagues ou des bracelets faits avec des fragments d'obus ou des ceintures de 75, des allumes-cigarettes composées de deux sous anglais auxquels un militaire était arrivé à donner dans sa cagna une patine si belle que le profil de la reine Victoria y avait l'air tracé par Pisanello. C'est encore parce qu'elles y pensaient sans cesse, disait-elle, qu'elles emportaient quand l'un des leurs tombait à peine le deuil, sous le prétexte qu'il était mêlé de fierté, ce qui permettait un bonnet de crêpe anglais blanc, de remplacer le cachemire d'autrefois par le satin et la mousseline de soie, et même de garder des perles, et, disait-elle, et là je cite, « tout en observant le tact et la correction qu'il est inutile de rappeler à des Françaises. » Ah ben, tout de même. Proust ajoute « Le Louvre, tous les musées étaient fermés et quand on lisait en tête d'un article de journal une exposition sensationnelle, on pouvait être sûr qu'il s'agissait d'une exposition non de tableaux, mais de robes destinées d'ailleurs à ces délicates joies d'art dont les Parisiennes étaient depuis trop longtemps sevrées. C'est ainsi que l'élégance et le plaisir avaient repris. Les couturiers, nous dit-il, avouaient que chercher du nouveau, s'écarter de la banalité, affirmer une personnalité, préparer la victoire, dégager pour les générations d'après la guerre qu'on attendait tant une formule nouvelle du beau, telle était l'ambition qui les tourmentait. Alors bien sûr, vous connaissez Proust, vous savez que ce qui l'intéresse, c'est la mondanité, c'est ce qui se passe dans les salons. Quant à la charité, écrit-il, en pensant à toutes les misères nées de l'invasion, à tant de mutilés, il était bien naturel qu'elle fût obligée de se faire plus ingénieuse encore, ce qui obligeait à passer la fin de l'après-midi dans des thés caritatifs, autour d'une table de bridge, en commentant les nouvelles du front, tandis qu'à la porte les attendaient, il parle de ces, toujours de ces dames, des automobiles où siège un beau militaire qui bavardait avec le chasseur. Les visages étaient graves, nous dit-il. Les dames à nouveau chapeaux, vous rappelez, hein, les chapeaux en forme de cylindre, les dames à nouveau chapeaux, étaient des jeunes femmes venues d'on ne savait où et qui étaient la fleur de l'élégance, les unes depuis 6 mois, les autres depuis 2 ans, les autres encore depuis 4. Ces différences avaient pour elles autant d'importance qu'au temps où j'avais débuté dans le monde en avait entre deux familles comme les Guermantes et la Rochefoucauld 3 ou 4 siècles d'ancienneté prouvée. La dame qui connaissait les Guermantes depuis 1914 regardait comme une parvenue celle qu'on présentait chez eux en 1916 et lui faisait une sorte de bonjour de douairière, la dévisageant de son face à main et avouant dans une moue qu'on ne savait même pas au juste si cette dame était ou non mariée. En vérité, ces parvenus, ces dames sorties dont ne sait où, dont parle Proust, c'est le renouvellement social intrinsèque aux périodes de grandes mutations. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des révolutions, à chaque fois qu'il y a des guerres, évidemment, il y a de grands mouvements qui s'opèrent dans la société et l'on voit apparaître dans des salons dont la porte leur aurait été interdite quelques semaines plus tôt des personnes qui finalement s'y sentent tout à fait à l'aise. Disons-le, tout est en train de changer à Paris, en France et dans tout l'Occident. Proust nous parle du Salon des Verdurin. Ce Salon des Verdurin a totalement changé pendant la guerre. Madame Verdurin, elle, reste absolument fidèle à elle-même. Ses invités sont un peu différents et vous allez voir que l'ambiance, elle, est tout à fait particulière.
Oh,
Un extrait sur Europe 1 de Nuit d'étoiles de Claude Debussy, interprété par Nathalie Dessay. A tout de suite pour la suite du récit de Franck sur Europe 1. Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui sur Europe 1 dans le Paris de la Première Guerre mondiale, le Paris de Marcel Proust, Franck.
Un Paris qui était particulièrement exotique, évidemment, parce qu'il faut bien imaginer, nous parlions à l'instant avec nos invités des permissionnaires qui rentraient, qui venaient comme ça à la capitale. Mais parmi ces permissionnaires, il y avait beaucoup de soldats qui appartenaient à des régiments étrangers, vous savez, qui donc avaient la tenue locale, tout ça devait avoir un côté très couleur locale. L'impression d'Orient, nous dit d'ailleurs Marcel Proust, se renouvela à l'évocation du Paris du Directoire et succéda celle du Paris de 1815. Et alors là, voilà, il y a une autre référence. Il se rappelle cette époque où les Alliés, les Autrichiens, les Russes, etc., ont envahi Paris. C'était à la toute fin de l'Empire. C'est vrai qu'ils s'étaient installés à l'époque à Paris en 1815. Eh bien, comme en 1815, nous dit Proust, c'était le défilé le plus disparate des uniformes de troupes alliées. Et parmi elles, des Africains en jupe culotte rouge, des Hindous en turbanés de blanc, qui suffisait pour que ce Paris où je me promenais, je fisse toute une imaginaire cité exotique dans un Orient à la fois minutieusement exact en ce qui concernait les costumes et la couleur des visages et arbitrairement chimérique en ce qui concernait le décor. Alors évidemment, sous la plume de Proust, c'est son narrateur qui parle, hein, c'est son narrateur anonyme, c'est pas tout à fait Marcel Proust lui-même qui est censé parler. Mais vous savez ce que cette œuvre-là peut avoir d'autobiographique. Comme tant de Français, Marcel Proust a très mal vécu le début de la guerre, il faut le dire. Pour lui, les beaux jours de 1914 ont été marqués par la disparition de son chauffeur, ami et amant Alfred Agostinelli, qui est mort aux commandes de l'avion qu'il pilotait. Marcel, à ce moment-là, est très perturbé. Survient donc cette guerre qui l'accable évidemment, mais qui surtout personnellement le terrorise. Il a 43 ans à l'époque, et en théorie il est mobilisable, mais il sait que son hypersensibilité, sa nervosité, son asthme chronique, rien de tout cela ne lui permettrait de supporter longtemps le front, et encore moins le front tel qu'on finit par le découvrir, c'est-à-dire celui des tranchées. Marcel n'est finalement pas mobilisé, il est malade. Et du coup, il culpabilise. Et d'autant que son frère, Robert, est affecté près de Verdun comme chirurgien aide-major. Son ami et éditeur, Bernard Grasset, part lui aussi pour le front, ce qui perturbe l'édition du grand œuvre qui venait juste de commencer. C'est-à-dire que Du côté de chez Swann a été publié en novembre 1913 seulement. Proust va tout de même encore une dernière fois séjourner à Cabourg. On est là en septembre 14, donc au moment des grandes manœuvres et de la menace directe sur Paris, au moment où tant d'hommes partent pour la guerre. Mais son séjour est gâché par de violentes crises d'asthme. Ce sera son dernier voyage, ce voyage en Normandie à Cabourg. Après ça, il rentre à Paris, chez lui, boulevard de Courcelles, et il observe, et il écrit, et il observe, il observe. Il observe quoi essentiellement? La vie mondaine. Le salon Verdurin, s'il continuait, dit-il, s'était transporté momentanément dans un des plus grands hôtels de Paris, le manque de charbon et de lumière rendant plus difficiles les réceptions de Verdurin dans leur ancien logis. On est là à la fin de 1916, donc à un moment où effectivement les conditions de vie commencent à s'aggraver à Paris. Le nouveau salon ne manquait pas du reste d'agréments, nous dit-il. Comme à Venise, la place comptée à cause de l'eau commande la forme des palais. Comme un bout de jardin dans Paris ravit plus qu'un parc en province, l'étroite salle à manger qu'avait Madame Durin à l'hôtel faisait une sorte de losange aux murs éclatants de blancheur comme un écran sur lequel se détachaient à chaque mercredi et presque tous les jours tous les gens les plus intéressants, les plus variés, les femmes les plus élégantes de Paris, ravies de profiter du luxe des Verdurins qui, avec leur fortune, allaient croissant à une époque où les plus riches se restreignaient faute de toucher leurs revenus. Finalement, chez les Verdurins, on se renseigne des nouvelles du front, on téléphone aux ministres pour leur donner le point de vue de la bonne société sur les manœuvres de nos généraux, et l'on se rend compte que la guerre devient quasiment, c'est plus fort, que devient quasiment un divertissement. Je cite encore Marcel Proust. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins, et si passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire échappé pour 6 mois au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitres illuminées, je souffrais, comme à l'hôtel en Normandie quand des pêcheurs nous regardaient dîner. Mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe sans haine que prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table « On dirait que ce n'est pas la guerre ici ». Proust est ému par ses permissionnaires. C'est une émotion qui passe. Néanmoins, il n'est en revanche pas très effrayé par ce qui se passe par les bombardements. Charlus me demanda, écrit-il, est-ce que vous avez peur des Gotha et du canon? Les Gotha sont les petits bombardiers biplans des Allemands. J'avouais que non, et peut-être je me trompais. Comment aurait-on peur d'un canon dont on est persuadé qu'il ne vous frappera pas ce jour-là? D'ailleurs, formé isolément, ces idées de bombes lancées, de morts possibles n'ajoutaient pour moi rien de tragique à l'image que je me faisais du passage des aéronefs allemands. Juste, et il dit que ça ne lui fait rien, jusqu'à ce que j'eusse vu un soir le geste de la bombe lancée vers nous. Car la réalité d'un danger n'est perçue que dans cette chose nouvelle, irréductible à ce qu'on sait déjà, qui s'appelle une impression. Je cite... Pour la dernière fois, Marcel Proust, nous allons quitter ce Paris et revenir, en tout cas ce Paris de Proust, et revenir sur les bombardements eux-mêmes dans un instant. Sur le pont de la Concorde, écrit-il, autour de l'aéroplane menaçante et traquée, et comme si c'était reflété dans les nuages les fontaines des Champs-Élysées, de la place de la Concorde et des Tuileries, les jets d'eau lumineux des projecteurs s'infléchissaient vers le ciel, ligne pleine d'intentions, d'intentions prévoyantes, protectrices, d'hommes puissants et sages, auxquels j'étais reconnaissant que leur force daigna prendre avec cette précision si belle la peine de veiller sur nous. Qui a bombardé Paris à la fin de la guerre de 14? Comment, de quelle manière? Nous y venons dans un instant et nous parlons de ce qui reste le grand mythe de cette fin de guerre, évidemment, la grosse Bertha.
Et nous vous retrouvons, Franck Fur, Europe 1, avec l'invité du jour d'Au cœur de l'histoire, Christophe Dutrône, qui est journaliste et historien, spécialiste des questions militaires et de l'histoire des conflits du XXe siècle et auteur de Feu sur Paris, l'histoire vraie de la grosse Bertha, aux éditions Pierre de Taillac.
Ah, ça, c'est un très beau livre qu'on feuillette vraiment avec un bonheur fou. Les illustrations sont somptueuses, le texte est très fin. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette émission, pour tout vous dire. Merci beaucoup à vous, Christophe Dutrône, d'être venu nous parler de ce bel album. Alors, je l'ai ouvert à la page 86, on y voit une caricature de Kenel. Enfin, ce n'est pas une caricature, c'est un dessin, c'est une composition. Ça s'appelle « Une cave salon » en 1918, et l'on voit un monsieur très comme il faut dire « Il n'est que trop juste, n'est-ce pas, baronne, que nous subissions, nous aussi, les rigueurs de la guerre ?» Et ça montre la bonne société qui est en train de faire salon, mais au lieu d'être dans un beau salon à lambris doré, on est tout simplement dans une cave, c'est la seule différence. Paris s'est adapté à cette guerre, bien entendu. Il y a d'abord eu une adaptation.
Oui, effectivement, c'est une manière aussi pour la population parisienne d'imaginer qu'elle participe de manière effective à cette guerre, alors que, d'une certaine manière, elle vit de manière certaine plutôt sur les arrières. Elle vit cette guerre de manière totalement édulcorée, malgré l'ambiance militaire qui règne dans la capitale, avec tous ces militaires, et malgré aussi la petite ambiance de guerre qui est apparue dès 1914 avec quelques bombardements très très limités. Puis en 1915, avec ces survols de Zeppelin qui n'ont pas duré très très longtemps.
Mais ça a fait peur à la population, évidemment.
C'est un petit peu fait peur, mais en même temps, le résultat de ces bombardements de Zeppelin était quand même très 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 limité. Il y a eu, je crois que le pire raid a dû causer 26 morts.
Mais les Français avaient tellement identifié les ballons dirigeables aux Zeppelins et aux Allemands que les ballons dirigeables français ont été du coup totalement inopérants puisqu'ils se faisaient tirer dessus comme si c'était des ennemis en fait. Il y a eu là une confusion et ça a marqué les esprits.
Oui, sachant quand même que l'essentiel des ballons dirigeables français sont avant tout des ballons qui sont à poste fixe.
Statiques, hein, oui c'est ça.
Statiques qui servent à observer le front.
Ça les saucisses.
Voilà, c'est les saucisses. Et ça sert à observer le front depuis les proches arrières de la ligne de front pour voir comment se déroulent les offensives, pour repérer les travaux faits par les Allemands. Ce ne sont pas des vecteurs de bombardement tel que les Allemands l'ont conçu.
Donc là, on était en 1915, et puis la pression s'accroît peu à peu. Parce que d'abord,
après 1915, après le déclin des raids de Zeppelin qui étaient très très peu rentables pour les Allemands, il y a une relative période de calme qui s'impose. Et on assiste à partir du début de l'année 1918 à un retour offensif par les airs des Allemands sur Paris, qui va d'abord se matérialiser par l'apparition de bombardiers qu'on pourrait qualifier de géants, qu'on appelle les Gotha, qui sont des gros bimoteurs.
Le Gotha dont parlait le baron de Charlus dans le texte de Proust.
qui sont des gros bimoteurs qui viennent larguer leur cargaison de bombes de nuit. Puis à partir du 23 mars 1918 vont apparaître les premiers tirs de ce qu'on a appelé à l'époque la grosse Bertha, c'est-à-dire trois canons qui tapis dans l'Aisne, pilonnaient Paris à une distance de 120 km.
Alors là, je vous arrête, si je puis dire, Christophe Dutrône, puisque vous nous dites que la grosse Bertha bombardant Paris, globalement, c'est un mythe.
Alors oui, en effet, avant d'aller plus loin dans l'histoire du bombardement de Paris en 1918 par canon à très longue portée, je crois qu'il faut tout d'abord tordre le cou à un mythe qui perdure depuis près d'un siècle maintenant. La grosse Bertha n'a jamais tiré sur Paris.
Ça, c'est incroyable, alors, parce que c'est vraiment l'image qu'on en a toujours. On pense toujours à cette fin de guerre marquée pour les Parisiens par le roulement de l'artillerie et par cette grosse Bertha qui fait des dégâts. Et vous nous dites non, en fait, la grosse Bertha, elle tire ailleurs.
Alors en fait, la grosse Bertha, qu'est-ce que c'est que la grosse Bertha?
Voilà, c'est ça.
C'est un obusier géant qui avait été conçu par les usines Krupp en Allemagne pour le compte de l'armée allemande, bien évidemment, et qui était destiné à pilonner à écraser sous le poids de ces obus géants les fortifications belges de Liège, d'Anvers et de Namur, et aussi d'autres fortifications françaises.
Ouais, donc on est loin là de Paris.
Voilà, on est très loin de Paris. D'autres fortifications françaises comme Verdun et Maubeuge. Alors cet engin énorme tirait des obus surdimensionnés d'un poids de 810 kilos, presque une tonne. Ces obus faisaient un diamètre de...
Il faut rappeler pourquoi on l'appelait la grosse Bertha. D'où venait ce nom, ce surnom?
Alors, la grosse Bertha, c'est en référence à Bertha Krupp, la fille de Fritz Krupp, le patron des usines, usines Krupp jusqu'en 1902. Et donc ce surnom est d'origine allemande. Et c'est une sorte d'hommage un peu, je dirais, déplacé envers cette dame qui, au demeurant, était une jeune femme plutôt charmante et qui n'avait rien du monstre que laisse supposer l'appellation.
Alors en attendant le lance-obus, là, il ne tire pas sur Paris. Ça, c'est assez stupéfiant.
Il ne tire pas sur Paris pour l'unique et bonne raison que sa portée maximum est de 9300 mètres. Et début 1918, les portions les plus proches de la ligne de front sont à 90 km de Paris.
Mais alors, quels sont les canons qui tirent sur Paris?
Alors, ces fameux canons qui tirent sur Paris, ces banlieues en 1918, leur nom véritable est le Wilhelmgeschütz, qu'on peut traduire par l'arme de Guillaume, en référence à l'empereur Guillaume II. Ou encore, et plus simplement...
Dont les jours étaient comptés, en tout cas en tant qu'empereur.
Oui. Et plus simplement encore, les Paris-Kanonen, les canons de Paris en allemand. Et c'était des canons, eux aussi, d'un poids et d'une dimension hors du commun.
Quand tiraient-ils? Pourquoi? Quel était leur objectif stratégique? Quels sont les dégâts de ces canons? C'est ce que nous allons voir dans un instant. On va chanter les canons, si je puis dire, en attendant cela.
Canon qui fait tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
Vous êtes l'instrument brutal, imitant la voix du tonnerre, instrument comme lui fatal, qui tente à dépeupler la terre. Qu'on vous encloue et que la nuit, sous tous vos désastres s'étendent.
Canon qui fait tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
Qu'on vous fonde et vous change enfin en une pyramide immense, qu'on y lise sous le burin universelle indépendance vers la...
Le retour de Marc Augeret sur Europe 1 avec les canons.
J'étais en train de me dire, Julia, qu'il y a à peu près que chez nous, en tout cas dans les grandes radios généralistes, qu'on peut entendre ce genre
ce type de chanson. Oui.
Mais c'est tout notre plaisir de
vous
faire découvrir.
Oui, c'est un charme désuet.
Voilà, redécouvrir ces choses-là. Alors donc, les Paris-Kanonen tirent sur Paris. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de débats, Christophe Dutrône?
De dégâts, relativement non. Pourquoi? Parce que l'obus contenait relativement peu d'explosifs. Il fallait pas que cet obus soit trop lourd vu qu'il avait un très très long trajet à faire. Donc en fait, sa capacité vulnérante était relativement faible. Alors les premiers tirs ont débuté dans la journée du 23 mars 1918. Alors au départ, bon, c'est un peu un mystère d'où viennent ces explosions. Très vite, alors la première explosion historique qui a lieu le 23 mars 1918 à 7h20 du matin au 6 quai de la Seine dans le 19e passe...
C'est précis.
Sensiblement, c'est précis. Et les militaires sont des gens précis. Enfin, on le retrouve dans leurs archives. Donc cette première explosion passe sensiblement inaperçue. Mais bon, elle passe d'autant plus facilement inaperçue que très peu de temps avant, il s'est produit en banlieue, à La Courneuve, une catastrophe, à savoir que la fabrique de grenades de La Courneuve a pris feu, a explosé. Donc pendant 3 jours, il y a eu des détonations successives, puis après ça, les militaires ont fait sauter ce qui restait de munitions. Donc le Paris du 23 mars entend de manière régulière des détonations dans le lointain qui viennent de La Courneuve. Et donc cette détonation, finalement, va être noyée dans le flot relative des détonations quotidiennes.
Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les impacts, de tous les dégâts qui ont pu être causés dans Paris. Je pense à la maternité de l'hôpital Baudeloc, évidemment, à la statue de Saint-Luc derrière la Madeleine, à cet obus qui, le 9 juin 18, tombe sur une terrasse de café qui se trouve 2 rue de Belleville, dans le 20e arrondissement, etc. Je renvoie évidemment nos auditeurs à votre bel ouvrage pour découvrir tout ça et pour partager, pour sentir l'atmosphère qui régnait dans la ville, alors même qu'elle était ainsi la cible du feu allemand. Feu sur Paris, l'histoire vraie de la grosse Bertha, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Pierre de Taillac. Un mot simplement, Christophe Dutrône, sur l'impact psychologique de toutes ces armes. Est-ce que les Parisiens ont été marqués par cette affaire ?
Donc, passé la journée du 23 mars, qui a quand même été une journée, je dirais, choc, où il y a eu la révélation de cette capacité allemande de frapper Paris à une distance jusqu'alors insoupçonnée. Il faut savoir que jusqu'au 23 mars 1918, la portée maximale d'un canon allemand était de l'ordre de 20 km. Et d'un coup, on bondit de 20 à 120 km. Donc ça surprend tous les esprits. Mais bon, globalement, rapidement, les Parisiens se rendent compte qu'il n'y a pas de réelles menaces, c'est-à-dire qu'on a autant de chances statistiquement d'être tué par un obus de Paris Canonen que d'être renversé par une automobile en traversant un boulevard.
Finalement, c'était pas très grave. Merci infiniment. Donc, je rappelle votre ouvrage Feu sur Paris, Christophe Dutrône. C'est très recommandé. J'avais toutes sortes de livres, d'expos, etc. à vous citer. On en reparlera notamment pour le 11 novembre. On va reparler de la Première Guerre mondiale. Juste un mot de message Facebook. Notamment, on me signale qu'un petit ouvrage peu connu mais remarquable sur ces canons qui s'appelle « De l'Aisne, on bombardait Paris » de Jean Allade a été publié aux imprimeries de l'Aisne Nouvelle en 1987. Et vous avez un autre message.
Exactement, qui va vous faire plaisir, un message qu'on a reçu sur la page Facebook également, Joanne Stépien qui vous dit « Merci Franck pour votre récit d'hier sur les accouchements. Cela a permis à ma femme d'accoucher plus vite de beaux jumeaux aujourd'hui. »
Oh, bravo.
On les félicite.
Et on les embrasse. Merci infiniment. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous allons nous intéresser au job étudiant. Franck, 3 étudiants sur 4 travaillent aujourd'hui pour financer leurs études ou pour autre chose. Nous verrons quelles sont leurs motivations. Nous verrons aussi quels sont les avantages, les inconvénients, les pièges qu'il faut surmonter, en tous les cas détourner. Et puis nous attendons bien entendu vos témoignages, vos questions au 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur Europe 1.fr.
Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Julia.